Le 8 octobre 1966. Pour 30 octobre 1966, l'anniversaire du disciple.
Malgré son caractère personnel, nous diffusons le texte de cette conversation car la signification rythmique des anniversaires a un sens qui intéresse tout le monde.
Je vois que cette chose, la fête, c'est-à-dire l'anniversaire, c'est une occasion de faire le point. C'est pour ça que les astrologues ils consultent à une certaine date. Peut-être que, n'est-ce pas? Dans sa relation avec l'universel, l'individu a une certaine relation ou ensemble de relations avec l'universel. Et alors, il doit y avoir une cadence et les choses se reproduisent automatiquement à un même moment comme ça. Et alors, à chaque année, on doit pouvoir faire le point par rapport à ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus, ou ce qui est en arrière et ce qui est en avant. Ça doit être comme ça parce que ce mois-ci, à partir du commencement du mois, a commencé à se faire le point pour toi. Et alors ça se traduit par les cartes ou la carte ou les cartes et ce que je te dirais le jour de ta fête. Tout ça, ça c'est pas là, ça vient comme ça. Très amusant. J'assiste à un spectacle continuel. Et alors j'ai vu quelque chose de très intéressant. Et c'est peut-être ça que je voulais te dire pour ton livre. C'est comme la rencontre de deux courbes. Une courbe qui vient du passé et une courbe qui va vers l'avenir. Et alors, ce jour-là est le point de rencontre de ces deux courbes. Et alors, j'ai vu ton livre. Comme une espèce d'aboutissement de la courbe qui venait du passé. Et alors là, il y a un point qui n'est pas encore clair. dans ta pensée ou dans ta conception, là, c'est quelque chose qui appartient à la courbe ascendante de l'avenir. Et c'est ce point-là qui est la difficulté. Le mouvement qui appartient à la courbe venant du passé pour s'accrocher au moment. Je vois ça comme un schéma. C'est pas un principe, c'est un schéma. Non. Comme ça.
Ça n'a pas de sens, mais c'est ça. C'est ça qui m'était fait passer comme ça. J'ai choisi deux cartes. Ils sont là, je ne les montre pas, tu les auras le 29. Je ne sais pas encore ce que j'écrirai ou si j'écrirai quelque chose. Mais ça paraît être une année très décisive pour ta vie individuelle. Ta vie. N'est-ce pas? Comment dire? La vie éternelle en toi, hein? La vie éternelle dans ton individualité. Ça paraît être... Mais c'est ça, hein? Ça, c'est pas encore accordé. C'est très intéressant. Je les ai vus, les cours. Elles sont très nulles. Tout ça, ça se passe là-haut, comme ça. Et alors, ce qui est très amusant, c'est quand je vois, je ne vois pas comme ça. Voilà ça. Et je vois là-haut. C'est un peu plus haut que ça, comme ça, là, comme ça. Et je vois du dessus. Mais ça, j'avais vu, j'avais commencé à voir ça, ces deux courbes, je les connais. Je les ai vues. Depuis le commencement du mois, elles se précisent. Et elles sont très jolies. Très jolies. Très jolies. Hein? Très élégantes. Et celle-là, tiens, c'est comme un magnifique jet d'eau. Beaucoup plus joli que ça. Ça continue à monter. Ça n'en descend pas. Mais ça jette une pluie dorée sur la terre. C'est bien. C'est bien. Tiens, si quelqu'un me faisait une image comme ça, je la donnerais.
Peu après, il est question d'une lettre d'un jeune disciple qui a lu l'aventure de la conscience et qui demande comment Sri Aurobindo a pu pratiquer le yoga au début, alors qu'il était agnostique.
Il y a cette, il y a le chapitre où c'est un chapitre qui s'intitulait « Fin de l'intellect » où je disais que Sri Aurobindo avait été agnostique, n'est-ce pas, au début, et qu'il avait surtout cultivé l'intellect. Alors il fait un résumé de ce chapitre et à la fin il demande comment est-ce qu'on peut pratiquer des disciplines yogiques sans croire en Dieu ou le divin.
Pourquoi c'est très simple. Parce que c'est seulement des mots. Quand on pratique sans croire en Dieu ou au divin, on pratique pour atteindre une perfection, pour faire des progrès, pour... Il faut que je le... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je ne parle pas des gens qui ont une religion, ça, c'est... Ils apprennent un catéchisme quand ils sont tout petits, alors ça n'a aucun... Mais des gens, enfin, les gens comme ça, priant, comme il se trouve. Il y en a beaucoup qui croient au divin. Pas en Europe, en tout cas. Mais même ici, il y en a pas mal par tradition qui ont une divinité de la famille, n'est-ce pas? Mais enfin, ça ne les gêne pas quand ils sont mécontents de prendre la divinité et d'aller l'acheter dans le gaz, n'est-ce pas? Ça leur arrive. J'en connais qui l'ont fait. Ils avaient une Kali de famille qui était, n'est-ce pas, dans leur maison, ils l'ont bien prise et jetée dans le gaz parce qu'ils étaient mécontents d'elle. Si on croit au divin, on ne peut pas faire des choses comme ça, non? C'est pas croire au divin. On a une soif d'une certaine perfection, peut-être même de se surmonter soi-même, d'arriver à quelque chose de supérieur à ce qui est. On a, quand on est philanthrope, on a une aspiration pour que l'humanité soit meilleure et qu'elle soit moins malheureuse et moins misérable. Toutes sortes de choses comme ça. On peut pratiquer un yoga pour ça. Mais c'est pas croire. C'est avoir la foi. Il ne peut pas y avoir le monde sans divin. C'est ça. Que l'existence même du monde prouve le divin. Et non pas une croyance, justement, non pas quelque chose à quoi on a pensé ou qui vous a été appris ou rien, tout ça. La foi. La foi qui est... une connaissance vécue, hein. Pas une connaissance apprise.
que l'existence du monde suffit à prouver le divin. Sans divin, pas de monde. Ainsi, c'est tellement évident, que on a l'impression que pour penser autrement, il faut être un peu stupide. Et non pas dans le sens de raison d'être, de but, d'aboutissement, non pas tout ça, comme ça. Il y a le monde tel qu'il est, sa peau, parce que c'est le divin sous un certain aspect, suffisamment déformé, mais enfin. Moi, c'est plus fort que ça. Je regarde une rose comme celle que vous, comme ça. Cette chose qui tient une telle concentration de beauté. Spontané, pas fabriqué, spontané, un épanouissement. T'as qu'à voir ça, on est sûr qu'elle veut. C'est une certitude. Peut pas, c'est impossible, n'est-ce pas? C'est comme, pour moi, c'est fantastique, les gens qui ont étudier la nature, étudier vraiment d'une façon approfondie comment tout fonctionne et produit, existe, fonctionne. Comment est-ce qu'on peut étudier sincèrement, avec attention et soin, sans être absolument convaincu de ça? Nous l'appelons divin parce que... Mais divin, c'est tout petit. L'existence, pour moi, est une preuve incontestable qu'il n'y a que ça, quelque chose que nous ne pouvons pas nommer, que nous ne pouvons pas définir, que nous ne pouvons pas décrire. Mais que nous pouvons sentir et devenir de plus en plus un quelque chose qui est plus parfait. Toutes les perfections, plus beaux que toutes les beautés, plus merveilleux que toutes les merveilles, que même une totalité de tout ce qui est n'arrive pas à exprimer. Et qu'il n'y a que ça. Et ce n'est pas quelque chose qui flotte dans rien, il n'y a que ça.